With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeux, l'émission où on vous résume toute l'actu jeux vidéo. On parle de PC, de consoles, de mobiles, tout ce qui compte dans cette industrie. Ça c'est en général, mais aujourd'hui on va faire un épisode un petit peu différent parce que normalement, si tout va bien, alors là on enregistre début juillet, mais normalement au moment de la diffusion, moi je suis en vacances avec ma femme, seuls tous les deux sans les enfants, pour la première fois depuis quoi, 2017. Donc, alors là, je croise tous les doigts que j'ai, je tape sur la table, je touche du bois, parce que j'espère que ça va se faire. Mais du coup, c'est pas un épisode normal, classique d'actu, c'est un épisode un petit peu différent, où on va parler à Julie Le Baron. Bonjour Julie, comment ça va ?
Salut Patrick, bah écoute, ça va très bien. Je me réjouis de tes vacances à venir qui se dérouleront sans encombre, j'en suis sûr.
Ouais, on va, tu vois, on est à quelques semaines encore, je commence à trembler, mais on va espérer. Mais je suis super content de te recevoir pour cet épisode qui va vraiment être un petit peu particulier, voire possiblement bizarre, mais dans le bon sens du terme, parce qu'on va essayer de se parler d'une part de toi, et ça c'est forcément un sujet passionnant, évidemment, et d'autre part de la presse, jeux vidéo en particulier, mais peut-être même au sens un petit peu plus large, et l'état de la presse. C'est marrant parce que j'avais commencé à réfléchir à cet épisode il y a quelques semaines, donc là on est début juillet, quand on est en train d'enregistrer, et puis la semaine dernière, il y a eu cet événement dont les auditeurs se souviendront peut-être parce qu'on en a beaucoup parlé dans l'émission début juillet, avec le rachat de Unify, donc Gamekult, par ReWorld, qui a amené un certain nombre d'interrogations sur l'avenir du site et sur l'avenir de la presse jeux vidéo spécialisée en général. Donc on en a beaucoup parlé. Et on s'était dit que ça serait un sujet qui serait intéressant d'évoquer, toi et moi. Et on l'avait prévu avant ce rachat. Bon, c'était un petit peu à l'occasion de ce qui s'est passé chez Canard PC, puisqu'il se trouve que toi, tu travaillais chez Canard PC jusqu'à il y a quelques semaines.
Ouais, c'est ça. J'ai terminé fin juin. Donc ouais. Vraiment, oui, je viens de terminer, quoi. Je sors tout juste du truc.
Et du coup, on s'était déjà parlé à plusieurs reprises. Hein, t'avais participé à l'émission. Et du coup, on peut annoncer maintenant que tu vas participer régulièrement pendant au moins quelques mois au Rendez-vous Jeux, donc tu fais partie des réguliers, du coup, maintenant, et on se parlera, alors si on diffuse cette émission comme prévu mi-août, la semaine prochaine, on aura un épisode normal d'actu tous les deux, on pourra discuter de tout ce qui se passe, et j'ai déjà très très hâte.
On parlera de choses bien plus intéressantes que mon parcours personnel, je vous le garantis.
À voir. Mais c'est vrai que je vais pas dire que je me réjouis du fait que Canard PC ait des difficultés, mais moi ça me permet d'avoir ta présence dans l'émission de temps en temps, et on s'est même arrangé avec Erwan de Silence on joue,
mais
pour
oui,
que ça soit facile.
on peut presque parler de garde alternée, ouais, c'est vraiment sachant que vous diffusez en même temps, mais j'en suis très contente, en fait je suis très contente de pouvoir participer au Rendez-vous Jeu et continuer aussi Silence on joue. Ça, je pense que je vais me réjouir des jeudis encore plus maintenant.
Ouais, c'est ça. Il enregistre exactement en même temps que nous, Erwan. Il enregistre le jeudi midi, 1h, je crois, quelque chose comme ça. Et, ouais, et c'est exactement notre horaire. Et du coup, à chaque fois que je proposais à Julie de rejoindre l'émission, je disais « Ah merde, je suis sur Silence on joue. » Et moi, j'étais dans ma cave avec le poing levé, genre « Erwan !» Mais bon, maintenant, c'est arrangé. et d'ailleurs, c'est pour ça que je peux jamais recevoir Erwan, parce qu'il bosse tout le temps, le garçon. Ça m'attriste, mais bon.
Mais oui, mais ça m'étonne pas du tout. Ouais, c'est terrible. Très
mais du coup,
un Pokémon rare.
Peut-être même shiny, possiblement. Mais du coup, ça nous donne l'occasion, comme je le disais, je me suis dit, on va, comme tu as eu un parcours dans la presse qui a touché à beaucoup de choses et que je voulais parler de ce sujet depuis un moment, ben ça nous donne l'occasion de le faire, de parler de ton parcours et de la presse, et peut-être avec un regard un petit peu plus, un petit peu plus de recul que ce qu'on a fait quand on a parlé de Unify, Gamekult, Reworld, tout ça. Et un petit peu plus de recul et voir une, avoir une vision un petit peu plus d'ensemble. Mais du coup, bon, on peut commencer à en parler. Julie, est-ce qu'on peut parler un petit peu de toi ? Comme ça, en plus, ça donne l'occasion de te présenter aux auditeurs. Peut-on parler de toi ? Si tu me dis non, je suis emmerdé. Hein.
Non, non, bien sûr, avec grand plaisir, vraiment.
Alors, on commençons par ton passé vidéoludique. Est-ce que tu peux... Ouais, ça va être vraiment un format un petit peu bizarre parce que ça va être à moitié interview, à moitié plongée dans le passé, à moitié réflexion sur la presse.
Ouais.
Un mélange de plein de trucs. Peut-être même, avant de parler de ton passé, est-ce que tu peux nous dire tout simplement qui tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, ou pour que les auditeurs te situent avant de parler des origines ?
Ça marche, avant mon origin story. Qui suis-je aujourd'hui ? Eh bien, je m'appelle Julie Le Baron, Patrick l'a très bien dit. Je suis journaliste en ce moment, donc indépendante. J'écris pour plusieurs types de médias, écrits, et donc sur le jeu vidéo, mais pas que, et je participe régulièrement donc, à des podcasts où je parle, je prête ma voix dans un micro, comme je le fais ici.
C'est ça. J'ai une question, peut-être avant même de repartir aux origines, une question que se posent peut-être les auditeurs, d'une manière générale, puisqu'on va parler de la presse, est-ce que tu saurais nous dire, tu pourrais nous dire, combien paye une pige, en général, en fonction du travail que ça représente, peut-être, parce qu'on dit souvent que c'est compliqué d'être journaliste, que ça paye pas bien, surtout indépendant. Est-ce que tu pourrais nous dire, encore une fois, hein, plus ou moins, je ne veux pas que tu révèles de secrets mystiques, mais une pige, ça paye, ça coûte combien et ça demande combien de temps de travail pour un test, un truc du genre dans le jeu vidéo ?
Dans le jeu vidéo spécifiquement, oui, parce que j'allais rediriger les gens vers le site PayTapige, justement, où en fait les journalistes peuvent contribuer de manière anonyme en révélant le prix auquel ils sont payés au feuillet, et c'est quand même une bonne source d'information quand, par exemple, un journaliste cherche à savoir combien paye un employeur en amont. Mais alors pour le jeu vidéo, c'est assez variable, hein, ça dépend vraiment. Déjà parce que tous les jeux sont pas égaux, on va pas forcément avoir la même somme pour un jeu narratif qui se plie en une heure et un MMO où on va passer des heures et des heures. Donc c'est assez, honnêtement c'est même pas par zèle ou non envie de révéler des secrets, mais c'est vraiment au cas par cas, j'ai l'impression. Certains magazines vont établir un tarif par page, d'autres au feuillet, mais globalement ça paye plutôt mal en comparaison du temps investi, si je dois faire établir une généralité.
Tu peux nous donner juste un exemple pour un jeu, je sais pas, un AAA qui se termine en une vingtaine d'heures, peut-être que ça dépend des sites aussi, mais plus ou moins, est-ce que c'est 50€ ou est-ce que c'est 200 quoi?
Ah oui, bah là par exemple je peux te citer un exemple parce que c'était spécifiquement une pige. Par exemple, pour Numérama, j'ai été payé 300€ net pour le test de Cyberpunk.
Ah oui, d'accord. Bon, ça c'est pas mal quand même comme. Les tarifs moyens, quoi.
Franchement, oui. Là, ils sont plutôt dans la moyenne haute de ce que les gens proposent. Mais c'est aussi parce que ce genre de tests souvent sont à rendre très vite avec une clé qui arrive pas longtemps avant. Donc parfois, il y a juste une semaine, quelques jours pour le faire. Mais oui, voilà, ça, c'est vraiment un exemple, quoi. Sachant qu'après, je sais que Numérama aussi ont souvent tendance à commander des piges aux journalistes. Par exemple, des articles un peu rebonds sur une actualité liée au jeu qu'ils ont testé. Ce qui permet un peu, quelque part, de rentabiliser tout le temps investi à jouer au jeu, quoi.
Je comprends. Oui, parce que là, je regarde sur PayTapige, les tarifs sont généralement plutôt en dessous. C'est mais clair. Effectivement, ça dépend du type de travail demandé. D'accord.
Ouais.
Mais effectivement, un truc comme Cyberpunk, tu y passes presque une semaine complète. Donc effectivement, ça ne va pas être payé 70€. Moi, j'ai entendu des tarifs pour des tests genre 70-80€ pour un test. Alors même si c'est un test qui va être fait relativement vite, je ne sais pas si on va y passer 10 heures, 80, parce qu'en plus, quand on est pigiste, on a une structure derrière, enfin, on paye soi-même des taxes, des impôts, etc. Donc, ce n'est pas le tarif
ça,
de la
ça dépend. Ça dépend, parce qu'il y a pas mal d'employeurs qui payent en pige, en bulletin de salaire, et donc, du coup, ça ne nécessite pas forcément d'avoir un statut derrière d'auto-entrepreneur. Enfin, justement, c'est même encouragé pour la pige d'accepter des bulletins de salaire et pas de notes d'auteur ou des factures. Donc, honnêtement, moi, j'ai pas trop été confrontée à ce problème de devoir gérer ma propre compta.
Ok. Bah, je pense que tu es. Alors, je sais pas si on dira privilégié dans ce domaine, mais moi, j'ai entendu beaucoup de gens qui me disaient, bon, c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi.
Bah, mais... c'est ça. Oui, vraiment, ouais. Malheureusement, je suis privilégié. Ouais, je suis privilégié dans le sens où. J'ai pas eu à recourir à ça, mais je sais qu'en début de carrière ça a pu m'arriver qu'on me propose souvent des factures ou notes d'auteur et que je l'acceptais parce qu'il n'y avait pas vraiment le choix.
Bien sûr, ouais. Du coup, alors, Origin Story, depuis quand est-ce que tu joues aux jeux vidéo, Julie?
Eh ben, depuis, je saurais pas te dire l'âge exact, mais je dirais entre 4 et 5 ans. A commencé, en fait mon frère était un joueur régulier, et l'était particulièrement lui pendant son adolescence, et il jouait énormément donc au point and click LucasArts. C'est vraiment mes tout premiers jeux auxquels je ne comprenais pas grand chose, faut l'avouer aujourd'hui, et je suis rentrée vraiment dans le jeu vidéo PC comme ça, sachant qu'à côté je jouais aussi pas mal aux adaptations de films Disney, donc aux jeux, et je me souviens qu'il y avait un pack Disney avec Le Roi Lion, Aladdin, ce genre de choses, et c'était un peu les tout premiers jeux sur lesquels je me suis un peu fait la main. Mais après, j'aurais toujours un souvenir ultra particulier, en fait, des moments passés à jouer à Day of the Tentacle, qui était vraiment un de mes premiers jeux, et à Full Throttle, et ça me fait rire d'y repenser, parce que vraiment, je me rends compte à quel point je devais rien comprendre, mais j'ai vraiment baigné là-dedans, et en tout cas, le jeu vidéo a toujours fait partie de ma vie, même s'il y avait aussi un côté un peu... Il y avait toutes les restrictions qui allaient avec. Mes parents, par exemple, ne voyaient pas tous les jeux d'un bon œil. Donc, autant les jeux LucasArts, je pouvais, mais quand mon frère jouait à Doom, il avait l'obligation, en fait, de mettre un pansement sur la tête de son avatar, parce qu'en fait, il craignait que j'ai peur de voir son avatar devenir tout sanguinolent au fil des parties.
Et, un pansement, tu veux dire, sur l'écran
Sur l'écran, ouais, littéralement, sur le Doom Guy, quoi. Et je t'avoue que ça m'a presque plus
en bas dans la...
mais oui.
Il y avait le portrait, et donc il collait un pansement sur l'écran.
Et ouais, c'est ça, vraiment au niveau... Donc lui, ça devait pas mal l'embêter, dans le sens où il pouvait pas voir à quel point son personnage était amoché.
Ouais.
Mais moi, je pense que ça crée un plus gros traumatisme que si j'avais pu voir le personnage. Parce qu'en fait, je regardais ce qui se passait à l'écran, et je me disais, mais qu'est-ce qui peut se passer sous ce pansement, en fait, quoi. Et c'est quand je m'en suis rendu compte un peu plus tard, j'étais, ah oui, d'accord, c'était juste ça.
Tu disais, mais mon Dieu, c'est des trucs tellement horribles qu'ils veulent me le cacher. Mais
ouais,
en
exactement.
Même temps, je comprends, à 4-5 ans, bon, Doom en plus. Les trucs horribles, c'est pas forcément... Enfin oui, le visage tuméfié du Doom Guy, c'est effectivement un petit peu dur, peut-être, mais ce qui se passe à l'écran de Doom, c'est pire, quoi.
C'est exactement ça. Donc, ouais. Du coup, ça me paraissait assez étonnant.
Tes parents...
Non, et j'y jouais pas à 4-5 ans, si ça peut te rassurer. Je regardais mon frère, c'était plus vers mes 7-8 ans, ça.
Ok, oh bah fouf, tout va bien, alors.
Tes
parents étaient un petit peu joueurs, ou pas du tout? C'était des trucs qu'ils connaissaient pas?
Pas du tout. Enfin, mon père était joueur, mais ça se limitait au solitaire, à All Cap. Enfin, vraiment, les jeux qu'on retrouvait sur Windows à l'époque. Et ça lui arrivait assez fréquemment quand même de jouer à Prince of Persia, donc les vieilles versions
oui,
PC.
De l'époque,
quoi.
Ouais.
De l'époque qui était super chouette, mais qui, moi, pour le coup, me faisait plus peur que Doom. Hein. J'ai vraiment souvenir des chimères qui lui couraient après. Mais voilà, honnêtement, ça se limitait à ça, ce qui est déjà pas mal. Et ma mère, par contre, de son côté, ne jouait pas du tout. D'accord. Mais ils avaient quand même cette ouverture, en tout cas, sur le jeu vidéo en tant que média. Disons que, par exemple, ils étaient toujours intéressé un peu de qu'on leur raconte nos aventures sur Monkey Island ou autre, quoi. Mais voilà, ils n'étaient pas particulièrement grands joueurs.
Du coup, à la table, au dîner, le soir, vous leur racontiez ce qui s'était passé dans vos aventures. C'est mignon, ça.
Ouais, c'est ça. Ouais, on leur racontait. Et d'ailleurs, c'est quand Prince of Persia est sorti, Bah alors bon, par contre on parle des générations plus tard quoi, c'était sur PlayStation 2 que je l'avais. Ça devait être Sands of Time. Je m'étais dit bon, il faut que je motive mon père à jouer en fait, il adore Prince of Persia et là bon en fait, il a très vite été confronté à la barrière du double stick.
Ah,
Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu un peu cette dimension d'échange. Ils sont toujours plus ou moins intéressés à nos expériences en jeux vidéo, même s'ils y comprennent pas forcément grand chose, mais ils sont toujours curieux un peu de savoir ce qui se fait en ce moment, à quel type de jeu on joue. Et c'est quelque chose qui les intéresse en tout cas. Ouais.
D'accord. C'est cool. C'est vrai que c'est enfin, il y a les changements de génération évidemment. Aujourd'hui, moi, quand on parle sur le Discord et avec des amis, c'est toujours alors toi, avec quel jeu t'as commencé ? C'est plus vraiment les parents qui présentent les jeux aux enfants. Et, ouais, et là, on est complètement à fond dans le truc et on a hâte qu'il commence à jouer avec nous. Et limite, ça va pas assez vite, mais...
Oui, c'est ça. Je me dis, tu dois avoir en tête tous les jeux que tu as envie de leur faire découvrir, mais par tranche d'âge. Donc forcément, ouais.
Ouais. Et du coup, tu as commencé vraiment sur PC, mais tu as enchaîné du coup sur les consoles. Après, tu jouais à tout ou tu avais des préférés ou ça se passait comment ?
Alors au début, je jouais pas mal sur PC. Ensuite, j'ai eu la Game Boy. Fantastique période de mon collège, le jour où mon père m'a offert une Game Boy. Et après ça, on a eu la PlayStation 1 à la maison. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, je suis devenue vraiment essentiellement une joueuse console. Ce qui est étonnant pour quelqu'un qui a un canard PC, mais c'est le cas. C'est vrai que je viens essentiellement de la console, finalement, quoi. Parce qu'après la PlayStation, je les ai tout enchaînés, quoi. Je suis vraiment resté sur ça.
T'es resté sur Sony ou t'as fait Nintendo, Microsoft ou...
Je suis un peu passée. Bah, alors après, c'était une question, c'était aussi une question de moyens, hein, forcément, de rester sur une console. Mais disons qu'après, les années étudiantes venant, j'ai eu plusieurs colocations où du coup, je passais successivement sur Nintendo ou Xbox selon les sensibilités de mes colocataires.
C'est marrant comme la PlayStation a... Je pense que certains ne se souviennent pas bien ou n'ont pas vraiment vécu ce moment où la PlayStation est arrivée et où elle a vraiment étendu la portée du jeu vidéo sur console, et à vrai dire du jeu vidéo tout court, parce que pendant très longtemps, le jeu vidéo, c'était beaucoup sur console, enfin en majorité. Et la PlayStation, quand elle est arrivée, elle était moins chère et surtout les jeux étaient beaucoup moins chers parce qu'ils étaient sur CD, qui coûtaient moins cher à faire et à vendre que les cartouches. Et il y a énormément de gens qui ont découvert vraiment les jeux vidéo avec la PlayStation.
C'est vraiment une anecdote personnelle, mais je me souviens vraiment de la fascination qu'exerçait la PlayStation sur moi et mes camarades de classe. On devait être en CM2 ou 6e, je ne sais plus à l'époque. Mais vraiment au point où tout le monde connaissait le prix de la PlayStation, tout le monde en rêvait, c'était vraiment, vraiment le gros cadeau à avoir. Et il y a eu une journée spéciale dans mon école où des policiers sont venus en fait pour nous apprendre des notions. Hein. Par exemple, nous dire est-ce que vous savez ce que c'est, par exemple le recel, est-ce que vous savez. Et la première question que le policier nous a demandé, c'était ça coûte combien une PlayStation ? Et là, vraiment, je me souviens mais de la classe quasiment à l'unisson qui dit 690 francs. Parce que je pense qu'on s'était tous auto-persuadés que c'était un jeu concours et qu'on allait repartir avec une PlayStation à la fin.
Oh non !
Et quand le type en fait nous dit « Eh ben voilà, bah, si on vous propose une PlayStation à 100 francs, par exemple, vous doutez que c'est du recel, etc. » On était ultra déçus. Mais il y avait vraiment ce côté-là, ouais, où vraiment son arrivée, c'était l'objet de rêve, quoi, très vite.
Du coup, tu dis tout le monde dans la classe. Je vais te poser une question un petit peu orientée, mais je suis genuinely curious. Est-ce que c'était plutôt les garçons qui s'intéressaient à ces trucs-là, qui connaissaient les prix ? Et du coup, est-ce que tu étais un petit peu la nana bizarre qui s'intéressait aux jeux vidéo ? Ou est-ce que les filles aussi dans la classe, ou au moins une partie d'entre elles, étaient à fond comme toi ?
Alors, il y avait une petite partie d'entre elles qui étaient intéressées, j'étais honnêtement pas la seule, mais c'est vrai que c'était une majorité de garçons. Quand je dis à l'unisson, c'était surtout, des voix en passe de muet qui se sont fait entendre ce jour-là.
690 francs d'accord, et du coup, bon, tu continues sur les consoles, tu continues ton parcours dans le jeu vidéo. Et arrive courant 2000 le moment de commencer ta vie professionnelle. Est-ce que c'était une passion au point où tu t'es dit « il faut que je fasse un truc dans le domaine du jeu vidéo » ou est-ce que c'était un truc de côté, un hobby, et au niveau pro, tu t'es dirigé vers autre chose ?
Alors, je savais déjà que je voulais être journaliste. Je m'intéressais aussi énormément au cinéma, donc je m'étais plus imaginé écrire sur le cinéma à ce moment-là. Mais le jeu vidéo était toujours dans ma tête. C'est juste que, disons que j'avais l'impression que c'était, en tout cas mon impression de lycéenne ou étudiante post-bac, c'était que le milieu du jeu vidéo était ultra fermé, encore plus que celui du cinéma. Et pour moi, ça me paraissait inenvisageable d'écrire sur le jeu vidéo. J'y songeais même pas, en fait. Enfin, pour moi, c'était même pas une possibilité. Autant sur le cinéma, je voyais quelques endroits où je me verrais postuler plus tard ou écrire plus tard. Pour le jeu vidéo, je me disais que c'était compliqué. J'avais vraiment le sentiment. Je pense spécifiquement à Canard PC, mais même Joystick avant. En fait, il y a vraiment l'illusion de. Enfin, c'est pas tant une illusion, mais les équipes sont tellement identifiées qu'on a l'impression qu'elles ont été là pendant très longtemps et que du coup elles y resteront et que c'est difficile de s'y faire une place. Et c'était même pas une possibilité que j'envisageais, même si quand bien même je jouais et j'adorais donner mon avis sur les jeux, quoi.
J'ai du coup deux questions à te poser. Très rapidement sur ce sujet, tu pensais que c'était pas vraiment une possibilité, enfin tu pensais même pas parce que c'était les équipes qui étaient en place ou parce que tu te disais il n'y a pas de nana donc c'est pas pour moi, ou les deux mélangés, ou sans être vraiment conscient?
Ça a clairement joué, le fait que de ne pas avoir de signature féminine dans les magazines de jeux vidéo que je lisais. Même si j'ai quand même grandi avec des émissions sur Game One où il y avait des femmes, mais disons que elles étaient vraiment en extrême minorité. Et c'est vrai que quand je te dis c'était difficile de se faire une place, je pense que ça tient effectivement au fait que les équipes étaient ultra identifiées là depuis longtemps, mais aussi le fait qu'elles étaient composées quasiment exclusivement d'hommes, en fait. Enfin, vraiment. Ça a évolué.
Tu te vois pas dans ce contexte, donc tu y penses même pas, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Je suis sûre que j'aurais rêvé de le faire si j'en avais perçu la possibilité à ce moment-là, mais le fait est que pas du tout. Ouais. Et je pense que c'est essentiellement pour cette raison. Ouais.
Et du coup, mon autre question, je reviens un tout petit peu en arrière. Tu dis, je savais déjà que je voulais être journaliste, mais qu'est-ce qui pousse une collégienne, une lycéenne à se dire, je veux être journaliste? C'est un métier quand même un petit peu particulier. C'était quoi ta motivation? Parce que déjà, savoir quel métier on veut faire, c'est rare. Et journaliste, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un truc. Enfin, en même temps, peut-être parler de trucs qu'on aime. Mais ouais, qu'est-ce qui t'a poussé? Comment t'as su que tu voulais être journaliste?
Assez tôt, en fait, hein, vraiment au collège, quand j'ai participé au journal de mon collège qui s'appelait Le Stylo Bavard et où on pouvait écrire notamment, j'aime bien parce que je parlais de rubrique culturelle comme si c'était autre chose qu'une feuille de chou, mais réalisée par des collégiens. Mais en gros, moi, par exemple, j'écrivais sur des livres que j'aimais bien, essentiellement Harry Potter à l'époque. Mais et effectivement, le
Harry
fait
Potter,
de
c'est
pouvoir...
trop bien, faut le lire.
Ah, c'était clairement ça, ouais, ça ressemblait à ça. Et disons que ça me plaisait bien, en fait, cette idée de lire, de partager un peu ce qu'on aime et justement d'avoir ce côté un peu critique. Je vais pas dire analytique. J'étais au collège, mais en tout cas, j'ai pris très vite goût à ça. Et ensuite, plus tard, enfin, je me suis créé un skyblog, je crois, comme tous les adolescents de mon âge, où je parlais essentiellement de ma vie au lycée. J'aimerais te dire que ça a changé, mais là, je suis en train de parler de ma vie dans un micro. Et j'écrivais beaucoup de chroniques, en fait, des films que j'allais voir. J'allais constamment au cinéma, et du coup, je prenais beaucoup de plaisir à écrire sur le sujet. Et donc, très vite, la question du journalisme me paraissait une évidence, quoi.
Ouais. Ça m'a évoqué un truc que... J'ai peut-être déjà parlé, je ne suis pas sûr, dans l'émission, mais je disais, ouais, c'est un métier bizarre, c'est quand même étrange de vouloir être journaliste, mais en même temps, moi, je me souviens que quand j'avais, je sais pas, 18-20 ans, j'avais envoyé ma candidature à un des magazines, je ne sais pas si c'était Console Plus ou Joystick ou un truc du genre, ou Joypad, j'avais envoyé ma candidature avec un test que j'avais écrit d'un Zelda, et je me souviens que j'avais reçu une réponse du rédacteur.
Ah ouais ?
J'avais reçu une réponse, je ne sais plus qui c'était le rédac chef, mais ça m'avait complètement assommé. Le type m'avait dit « Oui, alors c'est très gentil d'avoir envoyé ta candidature, mais ton test, c'est un petit peu niveau 3e, donc travaille encore un peu.
» Waouh, c'est rude.
C'était,
oh là là.
J'étais... Et bien, du coup, ça m'a sonné. Et j'avais plein d'espoir, tu sais, moi j'étais relativement jeune. Et il faut se souvenir que, bon, moi je suis un petit peu plus âgé que toi, je pense que à 20 ans, à l'époque, on devait avoir la maturité qu'ont les gens de la génération suivante qu'ils avaient à 15-16 ans, tu vois, j'étais un enfant encore. Et du coup, j'étais plein d'espoir. Je me disais, oh, peut-être que je vais pouvoir travailler dans le domaine et être payé pour... Enfin, pouvoir avoir un travail pour parler de jeux vidéo. Le type bon, ton test, c'est rédaction 3e.
Non, mais c'est rude. Par contre, il y a des manières de faire des retours.
Alors, peut-être que c'est comme ça que je m'en souviens. Ça se trouve, il avait beaucoup plus mis les formes et il avait enrobé. Mais bref, oui. Donc, mais tu vois, comme quoi, finalement, j'y suis revenu et je préfère parler et dire les choses à l'oral, c'est peut-être plus facile pour moi parce que mon niveau d'écriture, niveau 3e, ça serait compliqué de se faire payer pour. Bon, j'écris peut-être un peu mieux aujourd'hui.
Bah oui, je pense quand même.
J'espère. J'ai eu des blogs aussi. Mais du coup, ok, oui, tu vois, ça m'entraîne. Du coup, tu as fait des études pour ça ou tu t'es lancé sans préparation?
Eh ben non, justement, enfin, je voulais faire des études pour ça. Je voulais faire. À l'origine, en fait, j'ai fait une licence d'anglais en lettres, langues et civilisations étrangères. Parce que à ce moment-là, je m'étais auto-persuadée que, et c'est le cas hein, quand même. Mais ce qu'on n'arrêtait pas de me répéter, c'est le journalisme est un milieu bouché. Il faut que tu trouves une solution de secours. On ne sait jamais. J'ai même pas songé à faire une école de journaliste directement. Je suis rentrée en licence, en me disant, le débouché naturel, c'était d'être professeur d'anglais. Je me suis rendu compte déjà que c'était pas vraiment pour moi, en tout cas le métier d'enseignant. Et de plus, je m'intéressais beaucoup plus à la traduction, à la littérature. Le journaliste restait dans un coin de ma tête et je me suis dit, bon, je vais essayer, en fait. Je vais essayer. Mes parents m'avaient dit, en gros, termine ta licence et après tu vois pour ce que tu vas faire, quoi.
Passe ta licence d'abord, exactement.
Et le fait est que je me suis dit, avant de me lancer, je vais faire un stage.
T'aurais pu être prof et jouer des coups dégueulasses comme les policiers qui étaient venus te faire croire que t'allais gagner une PlayStation.
Et dont on parle encore aujourd'hui, mais plus de 20 ans après. Je me dis, ouais, effectivement. Oui, effectivement, je me suis décidée à faire un stage en fait dans le milieu du journalisme avant de préparer d'éventuels concours, sachant que les concours étaient, l'année en fait d'études, elle s'avérait assez coûteuse, donc je me suis dit il faut dans tous les cas que je sois sûre que avant de me lancer là-dedans, parce que ça impliquait un prêt étudiant. Donc je fais un stage et ce stage était chez Vice Magazine, qui au final a été mon premier employeur. Et le moment où ils m'ont proposé un poste à l'issue de ce stage, j'ai pas hésité. Je me suis dit, bon, si je peux passer la case études, ça me va très bien. Même si, c'est quelque chose à la fois où je me dis, j'ai eu énormément de chance. Mais ça a été compliqué, en fait, au début de gérer ça, parce qu'il y avait forcément un syndrome de l'imposteur qui revenait en permanence. Parce que la première question qu'on pose à un jeune journaliste, c'est systématiquement, quelles études tu as fait? Et c'est des questions qui tendent à disparaître plus tard avec l'expérience, quoi.
Ouais, d'accord. Et du coup, mais du coup, oui, tu dis, j'ai pas hésité, tu t'es dit, je vais commencer à bosser tout de suite. Et les études, bon, t'avais quand même ta licence en poche quand t'as
ouais, c'est
fait
ça.
Ton stage.
Je ne l'avais pas encore. Non, justement, je l'avais pas encore. Et j'ai terminé mes partiels alors que j'étais embauchée, justement. J'avais réussi à négocier 2 semaines pour passer les partiels. C'était une entrée dans le monde du travail assez musclée, mais je regrette pas, ouais.
Et du coup, t'es arrivé dans le merveilleux monde du journalisme avec ton stage et puis ensuite avec l'emploi. Et c'était tout ce que tu espérais? C'était le bonheur de pouvoir parler de tes passions librement, dans une ambiance de camaraderie sans faille et de... Comment dire? On se prend des pizzas et des bières et c'est le bonheur? Ou c'était un peu plus rude?
Non, c'était un peu plus rude que ça, mais disons qu'il y avait quand même un certain esprit de camaraderie, parce que quand je suis arrivée à Vice, il y avait très peu d'employés, on était vraiment dans un petit bureau, donc il y avait effectivement ce côté un peu « on prend des pizzas ensemble ». Après, sur le côté réalité du boulot, c'était très différent. Sachant que Vice est un média américain à l'origine, il y avait énormément de traductions. La rédaction française n'avait pas beaucoup de moyens à l'époque. Donc c'était essentiellement des traductions. Alors là où j'ai adoré, parce que moi je m'intéressais vraiment à la traduction et c'était un moyen vraiment ultra intéressant de se faire la main en fait, d'apprendre en fait à voir comment est-ce qu'on construit un récit journalistique, Sachant que j'avais quand même la main assez libre sur les sujets que je voulais traduire. Vice, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un côté qui est vachement mis en avant, qui est le côté un peu plus clickbait, si j'ose me le permettre. Mmh. Mais il y a aussi énormément de reportages, en fait, qui sont menés par les différentes rédactions à travers le monde, qui donnent à voir un peu sur les situations de chaque pays où une rédaction de Vice est implantée. Et je pense honnêtement avoir appris beaucoup, beaucoup comme ça, en fait, en traduisant donc des reportages vidéo, des documentaires essentiellement, et des articles. Et après, bon, il y avait la production française d'un autre côté, qui là, pour le coup, je veux pas te dire que je suis très fière des premiers sujets que j'ai faits, parce que c'est là aussi où mes rêves se fracassent sur l'autel de la réalité, c'est que je me rends compte que la rédaction a peu de moyens. Donc c'est essentiellement des articles qui se limitent donc à du micro-trottoir, enfin des choses faciles à faire, quand on a peu de moyens, quoi.
Tu peux nous donner des exemples, parce que j'imagine que tout le monde ne connaît pas parmi les auditeurs. C'était quel genre de boulot que tu faisais ou qui était produit dans
ce type mes premiers articles, c'était essentiellement des... Alors, mon tout premier article, je m'en souviens, c'était... c'était un article sur une espèce de légende urbaine qui convient d'appeler le mythe du trou de l'enfer russe. C'est donc pendant la guerre froide, un trou a été creusé, il y a eu un trou creusé en vue, pas d'aller au centre de la Terre, mais en tout cas d'aller le plus profondément possible, donc dans la péninsule de Kola en Russie. Et le projet étant trop coûteux, il a été arrêté. Il y avait toutes sortes de rumeurs qui circulaient comme quoi, mais des rumeurs complètement fantasques, hein, comme quoi un micro y avait été placé, on avait entendu des cris de douleur. Et moi, l'idée, c'était en fait de discuter avec des scientifiques ayant pris part au projet pour qui débunkent un peu tout ça et puis qui m'expliquent un peu quelles étaient les motivations derrière. Et ça, c'était donc un premier article qui était pas brillant, si je peux me permettre.
Et ça a l'air intéressant pourtant comme sujet. Tu veux dire que c'était mal exécuté parce que tu débutais ?
Oui, voilà. Je pense que c'était un super sujet, mais que j'aurais pu faire bien mieux. Enfin, en tout cas, je le traiterais pas du tout de la même manière aujourd'hui. Là, c'était plus un article semi-gonzo où je parle de ma propre expérience et difficulté à contacter en fait les ingénieurs russes. Et ensuite, mon premier micro-trottoir. Alors ça, c'est très particulier. Il me semble que Éric Cantona avait lancé un appel à... je sais plus exactement ce que c'était, parce que c'est vraiment ça remonte à 2010, mais avait lancé un appel à retirer en masse son argent des banques. Et donc ça faisait énormément rigoler le rédac-chef de se dire il faudrait interviewer toutes les personnes qui retirent pour savoir s'ils participent à la révolution de Cantona. Sachant que bien sûr, c'était absolument pas le cas. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Je suis allée enquiquiner des personnes qui étaient persuadées que j'allais leur copier leur code confidentiel derrière l'épaule pour leur demander « Est-ce que vous faites la révolution à la Cantona ?» Et eux me disaient non, mais par contre, ça m'intéresse d'en parler. Et ça... Je critique un peu le côté micro-trottoir parce qu'on s'imagine que c'est vraiment le truc qu'on donne à des stagiaires en journalisme, et c'est souvent le cas. Mais moi, j'avais trouvé ça assez passionnant, en fait, parce que c'est une excellente excuse pour parler avec des gens d'horizons ultra différents et leur poser toutes sortes de questions indiscrètes sans que eux n'y voient le moindre inconvénient. Et je trouvais ça vraiment passionnant, en fait, de passer la journée à discuter avec une vingtaine de personnes différentes. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, en fait, dans mon expérience en stage.
Mais du coup, moi, j'ai l'impression que c'est quand même assez intéressant, ce boulot. Et puis, il y a de... Alors oui, c'est des moyens peut-être limités, mais c'est pas non plus... Si tu veux, quand on parle de la presse, je suis un peu surpris, parce que quand on parle de la presse, et en particulier de la presse... tech, jeux vidéo, ce genre de choses, qui est celle que je connais, quand on commence, et ce qui fait le gros de l'activité, eh ben ça va être de faire de la news, on est des newsers, on va les enchaîner 10-15 par jour. Peut-être que la période était différente ou le domaine était différent, mais là, ce dont tu parles, ça a l'air plutôt intéressant.
Je pense que c'est complètement lié aux médias où je me trouvais. Hein. Vraiment, je pense que c'était le fait que ce soit Vice et de surcroît à une période où le média était tout petit, sans les énormes contraintes que j'ai pu connaître par la suite quand le média a grossi. Donc oui, il y avait quand même une espèce de liberté, c'était presque un fanzine en fait à l'époque. Quoi.
D'accord. Ouais. Et du coup, tu t'amuses à Vice pendant quelques années, mais tu perds pas de vue la passion du jeu vidéo. Qu'est-ce qui se passe pour que tu te dises « bon, je vais aller voir ailleurs »
En fait, avant ça, j'avais écrit pour le jeu vidéo pour Vice par le biais de petites chroniques dans le magazine notamment, et je m'étais débrouillée pour interviewer des directeurs, le directeur de jeu d'Hitman, enfin bref, c'était, j'avais réussi à en parler un petit peu, et donc du coup ça m'avait tout de suite un peu décomplexé et conforté dans l'idée de d'écrire sur le jeu vidéo, mais encore une fois c'est pas quelque chose que j'envisageais à temps plein, encore une fois parce que j'estimais que c'était impossible. C'est en fait l'envie de quitter Vice était pas vraiment liée à mon envie d'écrire sur le jeu vidéo, c'était vraiment lié à l'envie d'écrire tout court. C'est que je m'étais retrouvée donc du coup donc je passe de stagiaire éditorial à assistante éditoriale, puis plus tard rédactrice en chef du site puis du magazine. J'avais plus du tout le temps pour écrire et ça me manquait énormément. En plus de ça, il y avait énormément de changements qui s'opéraient à Vice à ce moment-là, une ambiance de travail qui était devenue vraiment tendue et compliquée par moments. Donc je m'étais dit que c'était le bon moment pour partir, et très peu de temps après, en fait vraiment quelques mois après, je reçois un mail du rédacteur en chef de Canard PC. Et là, on est dans le népotisme total, enfin pas vraiment le népotisme, mais dans l'entre-soi total, dans le sens où à la rédaction de Vice se trouvait donc une verticale dédiée aux sciences et à la technologie qui s'appelait Motherboard, et la rédactrice en chef était la petite amie d'Ambroise, donc le Garel, le rédacteur en chef de Canard PC de l'époque. Et donc lui est venu vers moi en m'expliquant, écoute, je cherche, on passe en format mensuel, on cherche de nouveaux contributeurs. Le truc, c'est que j'aimerais bien quelqu'un qui ne vienne pas nécessairement de la presse jeux vidéo, parce que j'aimerais bien des angles un peu nouveaux, des regards un peu nouveaux sur l'industrie. Mais voilà, quand même des personnes qui s'intéressent aux jeux vidéo, est-ce que c'est ton cas ? Et là, je reçois ça et je me dis, non seulement, bon bah c'est fantastique, parce que Canard PC, j'ai pas parlé. Ah mais c'est une chance hallucinante, vraiment, d'avoir quelqu'un qui cherche spécifiquement ton profil, où le fait de pas venir de la presse jeux vidéo est presque une force, c'était inespéré hein, pour moi. Donc il m'a fallu vraiment 3 secondes pour réfléchir et lui dire oui immédiatement et lui proposer un nombre alarmant de pitchs, parce que j'avais beaucoup trop d'idées. Mais et donc du coup, oui, je suis entrée à Canard PC en tant que pigiste, en même temps qu'un de mes collègues de chez Vice, justement, qui lui travaillait beaucoup sur les chroniques judiciaires, donc pas du tout du jeu vidéo, même s'il s'y intéressait aussi également, et qu'il avait d'ailleurs, je crois, postulé à Canard PC. Moi, j'adorais le magazine, parce que j'avais un peu grandi donc avec les magazines jeux vidéo, et notamment Joystick, et Canard PC, c'était pas un magazine que je lisais régulièrement, mais je connaissais bien le ton, et je le lisais fréquemment. Donc, ouais, j'ai proposé immédiatement. D'accord. Beaucoup trop d'idées.
C'est quelle année, ça, où tu fais la transition ?
Et là, on est en 2018, parce que c'est vrai que, ouais, j'arrive à Vice en 2010, je suis partie en 2017.
D'accord.
Sachant qu'il y a eu quelques années où j'étais journaliste pigiste, parce que j'ai pas été embauchée. Oui, on a l'impression que j'ai été embauchée tout de suite, il y a eu un an avant que je sois embauchée chez Vice.
D'accord.
Ah, parce qu'en fait, oui, c'est ça. Je suis embauchée chez Vice à la sortie de mon stage. Mais après, ce premier contrat s'arrête parce que ce contrat était donc pour une verticale. Enfin, désolé, c'est vraiment des détails, mais...
Non, mais ouais. Oui, c'est très bien, je comprends.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et du coup, 2018, je me souviens plus, on est à la période où Canard PC commence à développer le site web, ou lance le site web, je me souviens plus quand ils l'ont fait, ça.
C'était... oui, il avait déjà été fait. Je pense que c'était en fait en plein moment où le site web était développé et ils envisageaient... Enfin, ils passaient au format mensuel, ouais.
D'accord.
C'était pile poil cette période, en fait.
Parce que Canard PC a effectivement, pendant longtemps, s'est reposé sur la vente de papier sans aide vers le web. Et ça devait être autour de cette période, effectivement, qu'ils ont enfin fait la transition. Et bon, il y a tout un tas de raisons. Et c'est un magazine, un truc particulier, Canard PC. Il y a vraiment une place spéciale dans le cœur des joueurs francophones ou français. Et donc, toi, tu fais la transition. Donc, tu passes d'une presse, on va dire, généraliste, qui est adossée à une maison mère américaine et des rédactions dans le monde entier, à Canard PC, spécialisé, beaucoup ancré dans le papier, un historique riche et lourd, et dans le monde, du coup, qui nous occupe, nous, du jeu vidéo, de la presse jeu vidéo en France. Comment ça s'est passé, cette transition ? Est-ce que ça a été le choc ? Qu'est-ce que tu as découvert ?
Moi, j'étais ultra intimidée à l'idée de piger pour eux. Vraiment, c'était, ça me stressait énormément.
Parce c'est marrant que quand même, on l'a pas dit précisément, mais t'étais du coup à la fin rédactrice en chef du magazine, et t'avais le site web. T'avais quand même un poste au bout de 6-7 ans de carrière qui était impressionnant. Et du coup, toi, t'étais intimidée par Canard PC ?
Ah bah complètement, parce que il y a aussi le côté affect, vu que c'était un magazine que je lisais, dont j'avais identifié les rédacteurs. J'aimais particulièrement les rédacteurs qui s'en allaient justement, et que même si c'était pas du tout à vocation de les remplacer, mais il y avait forcément ce côté-là où on sait qu'on arrive, on est une plume non identifiée dans un média où les plumes le sont énormément. En plus, je savais, encore une fois, syndrome de l'imposteur qui revient, parce que je savais que je venais pas de la presse jeux vidéo, et même si on m'avait demandé, on m'avait prise spécifiquement pour cette raison, je savais pas comment ça allait être perçu par les lecteurs, et tout de suite j'ai eu très peur que, par exemple, ma passion pour le jeu vidéo, ma connaissance du jeu vidéo soit potentiellement remise en cause. C'est d'autant plus le cas pour les femmes, même si honnêtement, à Canard PC, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Je sais que j'avais ce stress. Je me souviens encore du dossier qu'avait fait Marlar sur le sexisme dans la presse jeux vidéo notamment, et qui m'avait pas mal marqué, et j'avais vraiment très peur en fait de comment allait être perçue mon arrivée, d'autant plus mon arrivée après avoir travaillé pour un média généraliste. Donc il y avait un peu ce côté-là, mais pas que, il y avait aussi... je me réjouissais vraiment en fait de retrouver, de travailler pour un média papier, parce que j'avais vraiment un amour des médias papier. Ce que j'ai préféré à Vice, c'était vraiment être rédactrice en chef du magazine papier, j'adorais ça. Et le côté petite rédaction, moi, me parlait intime, enfin vraiment beaucoup plus que celui de la rédaction où on ne fait que se croiser, et ce qui était un peu devenu Vice à la fin. On était vraiment passé de 10 personnes dans un petit appart, enfin presque, mais dans un tout petit bureau, à une rédaction de plus d'une centaine de personnes, enfin comprenant peu de rédacteurs, mais beaucoup de publicitaires et de différents communicants. Donc j'avais vraiment très très envie en fait de retrouver une petite équipe, donc ça. Ça, je m'en réjouissais vraiment.
Vous étiez combien à Canard PC quand t'es arrivé ?
Je suis arrivé, je pourrais pas te dire exactement. Genre, je dirais qu'ils étaient pas loin d'une quinzaine, si on comprend Canard PC Hardware, les postes administratifs. D'accord. Et compta.
Oui, c'est taille humaine, on va dire.
Oh, en tout cas, oui, taille humaine, ouais. Vraiment taille humaine. La rédaction, en tout cas, de Canard PC à proprement parler, et c'était 5-6 rédacteurs.
Tu disais qu'au sein de la rédaction, ça s'est très bien passé et tu n'as pas eu de problème. Comment ça s'est passé avec les lecteurs et avec la communauté du magazine, du coup ?
Les lecteurs ont été vraiment super chouettes, dans le sens où le tout premier article que j'ai écrit, c'était un article sur les novélisations de jeux vidéo. Donc c'était des interviews avec des auteurs qui se retrouvaient à écrire la novélisation d'Assassin's Creed ou d'Alan Wake. Enfin, et j'étais quand même vraiment très curieuse de savoir si c'était vraiment la motivation, enfin l'amour du jeu vidéo qui les poussait à faire ça, ou si c'était vraiment un truc pour faire rentrer de l'argent rapidement. Et c'était un peu un mix des deux. Et après avoir publié cet article, j'ai eu des retours assez enthousiastes sur le forum de Canard PC, et même des messages qui disaient « Ah, j'aime bien ce qu'elle a fait, j'espère qu'elle écrira qu'elle écrira d'autres articles, etc. » Et tout de suite, ça m'a mise en confiance, on va dire. Je pense que le moment où ça a été un peu plus compliqué, c'est quand j'ai dû rendre mon premier test, parce que autant écrire sur des sujets, je vais pas dire annexes, parce que ça parle toujours de jeux vidéo, mais faire des dossiers un peu transversaux sur le milieu du jeu vidéo, je me sentais de plus en plus à l'aise. Mais sur la question du test, qui reste un exercice très particulier, j'étais un peu plus intimidée. Et là, pareil, ça a été relativement bien pris. Hein.
Du coup, tu tords un petit peu le cou aux idées reçues. Je ne sais pas si c'est Canard PC qui est un média particulier, c'est le fait que ça soit surtout papier ou quoi, mais tu tords un peu le cou aux idées qu'on peut se faire et sur le milieu et les communautés de joueurs. Ils t'ont... Alors, on va peut-être y venir, mais d'après ce que tu me dis, ils t'ont pas fait chier, ils t'ont pas emmerdé. Ni parce que tu venais d'ailleurs que du milieu du jeu vidéo, ni parce que t'es une femme. Tout va bien dans le meilleur des mondes ?
Non, parce que je te parle spécifiquement de la communauté Canard PC qui est franchement, et je le dis alors que je n'y travaille plus, la plus bienveillante que j'ai eu l'occasion de connaître. Enfin, c'est hallucinant en fait, vraiment déjà l'accueil qu'ils m'ont réservé et aussi le soutien qu'ils m'ont offert au moment de l'annonce des départs. Enfin, des licenciements, pardon. Et du coup, non, ça, pour ce qui concerne la communauté Canard PC, j'ai jamais eu vraiment de soucis. Et après, c'est pas non plus le monde des bisounours, bien sûr, il y a des critiques qui sont adressées, mais il y a aussi des retours ultra encourageants, et j'ai souvent eu des retours extrêmement constructifs. Je me suis jamais dit, ok, d'accord, je me prends une espèce de bile toxique que j'ai absolument pas mérité.
Oui, c'est, parce que les critiques, non, évidemment, on peut en avoir dans tous les domaines, et quand elles sont justifiées, constructives, il n'y a pas de problème. Mais oui, c'est pas de ce genre de soucis dont on parle généralement, quoi.
Mais en fait, au moment où donc on a commencé à s'ouvrir donc à Twitch, à YouTube, on s'est ouvert aussi à d'autres types de publics. Et là, on commençait effectivement. J'ai commencé à avoir des commentaires franchement sexistes. Oui, enfin, qui parlaient spécifiquement de mon physique ou. Pas du tout de mon travail. Vraiment, on va dire de tout sauf de mon travail. Et donc du coup, c'était. J'avais été un peu briefé là-dessus par les équipes d'OGaming qui hébergeaient l'émission Canard PC à l'époque, qui m'avaient préparé un petit peu à tout ça. Et disons qu'en fait, dès que je sortais en fait de la communauté Canard PC, ça m'est arrivé de regarder un peu ce que les gens pouvaient dire de Canard PC sur des forums, que ce soit ceux de Gamekult, qui sont quand même franchement assainis, je pense, ces derniers temps, mais ou ceux de jeuxvideo.com. Et il y avait des trucs vraiment affreux, et je me suis dit, bon, bah, faut juste arrêter de regarder ça, quoi.
D'accord.
Ce qui est pas évident, hein, franchement, c'est pas évident.
Ouais, est-ce que j'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus sur cet aspect, parce que la réponse que donnent souvent des gens, et peut-être encore plus des hommes, quand on dit oui, bah c'est toxique, il y a du harcèlement, machin, il y a beaucoup de gens qui disent bon, regarde pas, tu t'en fous, tu fais comme si ça n'existait pas, mais c'est pas aussi simple que ça, tu dis.
Bah non, c'est pas aussi simple que ça, dans le sens où moi, en plus, c'était une période où j'étais vraiment curieuse d'avoir un regard sur le travail que je pouvais produire à l'époque. Enfin, j'avais vraiment envie de m'améliorer. C'était vraiment dans une optique de m'améliorer, disons. Et quand on voit des commentaires qui parlent de tout autre chose que son travail, mais qu'on se rend compte qu'on est dans le viseur de personnes qu'on ne connaît absolument pas, c'est dur. Enfin, c'est honnêtement difficile. Moi, j'ai du mal à... J'arrive à ne pas regarder, mais au début, c'était difficile parce que je me disais, ne pas regarder, c'est aussi se priver de tous les commentaires qui pourraient m'aider à avancer. Et il y en avait aussi beaucoup. Donc, je pense qu'au début, c'est difficile. Et puis, forcément, ça reste toujours dans un coin de la tête. Donc, heureusement, j'étais quand même vachement entourée. Enfin, je trouve que l'équipe de Canard PC a été vraiment super à ce niveau-là. Dès qu'il pouvait y avoir l'once d'un commentaire négatif, etc., enfin, on en discutait. Enfin, c'était vraiment... on me demandait comment je le ressentais, quoi. Et ça, je pense que c'est important quand on commence à bosser dans la presse jeux vidéo et qu'on s'expose effectivement à une communauté qui peut être toxique, enfin vraiment par endroit complètement. Et ça, je l'ai plus expérimenté en tant que joueuse qu'en tant que journaliste, je pense. C'est important, je pense.
Ouais. C'est marrant parce que les gens qui disent généralement ce genre de choses, il suffit de pas regarder, c'est les premiers à s'effondrer quand un quart de la moitié du début de ce genre de choses leur arrive, pour une raison ou une autre, parce qu'ils se sont fait afficher ou pas quoi, et tout à coup, c'est les larmes et le désespoir. Donc, bref.
C'est clair.
Du coup, là, c'est l'arrivée dans le milieu du jeu vidéo, de la presse jeu vidéo. Est-ce que c'est un milieu qui te surprend, qui est différent, on parle évidemment ces derniers temps des difficultés que peut avoir la presse spécialisée, et ça n'a pas commencé hier, hein, 2018, j'imagine que c'était déjà pas évident, et sans doute que les évolutions de Canard PC ont été en partie motivées par justement ces changements et ces difficultés. J'imagine que le fait que Ambroise soit venu te voir en te disant « moi je veux quelqu'un qui vient d'un autre milieu, qu'on ait un regard différent », c'était aussi pour se démarquer et pour pas faire que de la news et avoir du contenu de qualité. Donc tu arrives dans ce milieu, est-ce qu'il y a des choses qui te surprennent? Quel regard tu portes sur la presse spécialisée et l'état de la presse spécialisée à ce moment?
J'avais déjà une petite idée de à quoi ça pourrait ressembler, en tout cas les relations avec les éditeurs, le fait, en fait, c'était les streamers étaient déjà très très présents, donc je savais déjà en fait que la presse papier était plus ou moins sur le déclin, dans le sens où pour moi on s'adressait vraiment à un noyau dur de lecteurs qui nous suivaient depuis longtemps, mais que la critique de jeux vidéo, les gens la consommaient autrement. Ça, là-dessus, j'ai pas eu de grandes surprises. C'est plus au niveau des relations éditeurs. Par exemple, j'ai fait quelques enquêtes, quelques articles où j'ai pu parler sans difficulté avec des employés de différentes boîtes. Mais il y a eu des cas spécifiques où ça devait passer par plusieurs validations. Et des validations qui me paraissaient étonnantes, dans le sens où c'était pas, par exemple, une enquête sur le crunch dans telle boîte. C'était un moment où j'avais envie de mettre en valeur un métier particulier, un aspect du métier. Et donc, ça impliquait de parler avec des gens en poste dans différents studios. Et j'étais très étonnée, en fait, de constater à quel point c'était balisé. C'était vraiment, il fallait faire valider les réponses. Et pour moi, c'est compliqué, parce que c'est pas vraiment l'idée que je me fais du journalisme, en fait. C'est plus quelque chose qui rentre dans de la communication à partir du moment où l'éditeur le valide. Et ça, c'est un aspect que j'avais franchement sous-estimé. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi présent.
C'est-à-dire que dans ton métier d'avant, chez Vice notamment, tu pouvais aller parler à un employé d'une boîte et le département relations presse n'allait pas avoir son mot à dire sur votre entretien, ou c'est quelque chose que tu n'avais pas fait avant et qui t'a... Que tu as commencé avec la presse, avec les sites de jeux vidéo, les sociétés de jeux vidéo.
Oui, quand je dis n'a pas de mot à dire sur l'entretien, c'est-à-dire aucun droit de regard sur le contenu de l'entretien. En général, j'avais pas de soucis avec ça, quoi. C'est une des premières enquêtes que j'ai fait sur le jeu vidéo, c'était un reportage en prison à la maison centrale de Saint-Maur, où j'avais voulu un peu étudier la manière dont le rapport des détenus aux jeux vidéo. Je me suis dit, c'est sûr, ils vont vouloir regarder toutes mes notes, ils vont vouloir analyser chacune de mes interventions, et pas du tout, en fait. Et c'est comme ça que...
Tu veux dire,
ça
la prison, les responsables, les administrateurs de la prison t'ont laissé discuter sans regarder tes notes
Absolument pas. La seule chose qu'ils ont regardé, c'est les photos, dans le sens où j'étais soumise à un accord. C'est qu'il ne fallait pas que les détenus puissent être identifiables. Donc je pouvais pas discuter des raisons de leur incarcération, ce qui paraît tout à fait logique. Ouais. Et c'est honnêtement la seule chose sur laquelle ils ont été regardants. Sur le reste, vraiment, enfin, je pouvais demander... là, il s'avère que le sujet, c'était le jeu vidéo, mais j'aurais pu parler, par exemple, de ce qu'ils pensent des conditions carcérales, de tout un tas d'autres choses. Ils n'auraient pas eu leur mot à dire. Et me dire que la prison est un milieu parfois plus ouvert que le monde des jeux vidéo, c'est quand même assez curieux.
Mais est-ce que tu as eu des expériences dans d'autres industries? Je ne sais pas si tu vas parler à des employés de Renault ou j'en sais rien, de L'Oréal. J'imagine que le département relations presse va quand même surveiller ce qui se passe dans les discussions, non?
Oui, t'as entièrement raison. Hein. Je pense que c'est pas du tout limité aux jeux vidéo, c'est vraiment le monde de l'entreprise au sens large. Mais j'ai pas été confrontée, franchement, à ce type de cas de figure. Enfin,
donc ça t'a surpris.
Des journalistes, des employés, de différents. Et honnêtement, c'était il faut une validation de mon chef. Souvent, il faut une validation. Enfin, en gros, qui donne son accord pour entretien. Mais après, sur le contenu de l'entretien en soi, il y avait pas de. Il n'y avait pas de droit de regard que s'octroyaient les chefs d'entreprise en question.
Du coup, ça m'amène à te poser une autre question. On parle souvent justement de ce rapport de force qui existe entre les sites de jeux vidéo ou les magazines de jeux vidéo et les éditeurs, qui est un rapport qu'on va avoir peut-être dans tous les domaines du divertissement, dans le cinéma, le contenu des magazines est lié forcément au bon vouloir des boîtes de prod et des distributeurs. Ça, c'est normal. Pareil dans la musique, pareil dans plein de domaines. Mais on parle souvent dans le jeu vidéo de ce rapport de force en disant que peut-être effectivement, parlons du jeu vidéo, mais même si c'est peut-être pareil ailleurs, avec les influenceurs, etc., la presse a peut-être perdu un petit peu de son importance et du coup est à la merci du bon vouloir des éditeurs. Moi, c'est une chose que je n'ai pas vraiment constatée et que même je conteste, qu'il n'y a pas une influence vraiment... Enfin, il y a peut-être des incidents ici et là, mais on ne peut pas dire qu'il y a une influence des éditeurs sur les médias. Est-ce que toi, c'est une chose que tu as ressentie ou est-ce que je me trompe sur ce point-là, ou comment tu le vois, cet aspect-là?
Le cas spécifique de Canard PC, honnêtement, j'ai pas du tout ressenti cette pression-là, dans le sens où ça pouvait arriver. Par exemple, Canard PC a fait une grosse enquête avant que j'arrive sur Quantic Dream, Et on s'attendait pas... en tout cas, je sais que les rédacteurs s'attendaient pas à recevoir les prochains jeux de la part de Quantic.
Ouais, non, ça c'est... Mais, c'est un cas particulier, mais effectivement, je pense que c'est pas surprenant.
Mais on est sur un cas très particulier, et ça, je sais qu'effectivement, ça peut arriver, de se faire blacklister par un éditeur de manière officieuse, parce qu'au final, on va jamais avoir un message qui dit « Vous ne recevrez plus nos jeux, car vous avez dit du mal de nous, bien sûr, personne ne ferait ça. » Mais donc, il y a cette petite pression-là, qui est là, forcément, mais après, je veux dire, le magazine étant ce qu'il est, et revendiquant son indépendance, les éditeurs qui travaillent avec nous, quand je dis travaillent avec nous, qui nous envoient leur code, savent très bien qu'on a une liberté de ton énorme et qu'on n'écrira jamais quelque chose de positif pour leurs beaux yeux. On jugera le jeu et le jeu seul. Et là-dessus, en tout cas, j'ai jamais eu le sentiment qu'on me poussait à écrire autre chose que ce que je voulais. Donc non, je l'ai pas ressenti.
Ouais. C'est marrant parce que moi j'ai... Oui, pardon.
Non, je disais, c'est vraiment plus sur l'aspect que je te disais, quoi, sur le côté « Ah bah, eux, on va être blacklistés ». On sait très... Enfin, quand on met une mauvaise note à un jeu, on s'attend potentiellement à ne plus recevoir de jeu de la part de cet éditeur. Parfois, ça arrive, parfois, ça n'arrive pas. Mais voilà, ce type de pression-là, plutôt.
Ouais. Moi, j'ai travaillé, du coup, chez Blizzard pendant plusieurs années, il y a de 2009 à 2014, au département relations presse. Et c'est marrant à quel point... Le quotidien de mon travail, moi je travaillais parfois directement avec les journalistes, mais il y avait surtout une personne qui était chargée des relations avec les journalistes. Et c'est marrant à quel point les gens dans chez les lecteurs ont parfois une image des relations presse qui est un petit peu le puppet master qui tire les fils dans l'ombre, machin. Et c'est arrivé, je me souviens, d'une histoire de... C'était pas chez nous, mais quelqu'un avait fait un papier hyper critique d'un éditeur ou levé un lièvre ou un truc du genre. Il y a un éditeur, ou met une mauvaise note, c'est possible. Il y a un éditeur qui s'était énervé, qui connaissait pas bien le truc et qui avait dit « Ah, mais ceux-là, on les blacklist, machin. » Et les responsables PR étaient justement, avaient fait le bouclier, quoi. Ils disaient, mais enfin, ça va pas la tête, ça se fait pas, quoi. Tu mets jamais de la vie, on va pas. C'était pas une histoire, c'était pas une enquête sur l'environnement toxique d'une boîte non plus. Hein. Là, j'imagine que c'est peut-être.
Et quand bien même, quoi, au final, ça. Mais c'est vrai que tu pointes un truc intéressant, c'est que moi, j'ai vraiment une profonde admiration pour les attachés de presse qui se retrouvent vraiment entre deux eaux, quoi. Devoir jouer les équilibristes entre d'un côté les journalistes et d'un côté l'éditeur, quoi.
Je vous raconterai des histoires sur le fonctionnement un jour, rien de scandaleux, mais c'est vraiment comme les community managers qui font le pont entre les développeurs et la communauté. Ils travaillent autant pour la communauté que pour les développeurs, et il y a une question de pas de jeu de pouvoir, mais d'influence et de qu'est-ce qui compte le plus et qu'est-ce qui est important, qui est réel. Et les gens des PR qui sont au contact quotidien des journalistes, il y a beaucoup de gens qui disent ils essayent d'influencer les journalistes, machin, ils payent des déjeuners, ils envoient des machins et tout, mais oui, évidemment, il y a un petit peu de ça, mais ils font autant pour défendre les journalistes ensuite en interne pour des gens qui ne sont pas du tout en contact avec ce monde et qui ne le connaissent pas, qui ont parfois des idées un petit peu bizarres. Les développeurs chez Blizzard avaient tellement de pouvoir qu'ils exigeaient parfois des trucs qui n'étaient pas des trucs maléfiques, mais genre, on va faire que... Il va falloir que... tous les journalistes nous envoient leur adresse email un mois avant pour qu'on leur active la bêta sur tel truc, pour pas que ça partait d'une bonne intention, pour pas qu'on envoie des codes qui vont être vendus ensuite ailleurs. Et tu disais, mais je peux pas demander sans préciser les infos du truc. Enfin bon, bref, peu importe. Mais c'était ce genre de jeu d'influence et d'exigence, quoi.
Ouais, je vois.
Du coup, oui, tu arrives dans ce milieu de la presse. On en a un petit peu parlé. Mais en 2018, elle était déjà pas hyper... un petit peu mal en point. Les choses commençaient à se gâter dans la presse depuis un moment déjà, mais même pour les sites web, ça devenait compliqué. Est-ce que toi, tu ressens cette difficulté? Tu commences à parler avec des gens du milieu, j'imagine. Maintenant, tu fais partie de la presse spécialisée jeux vidéo. Quelle est l'ambiance parmi les journalistes? On parle beaucoup de la difficulté à gagner sa vie, des gens qui sont en burn-out parce qu'on est systématiquement considéré comme des débutants de 20 ans et puis on n'est pas super bien payé, etc. Tu ressens cette ambiance un petit peu anxiogène quand tu y arrives?
Un peu, oui. Un peu, parce que d'un côté, il y a le moment où j'arrive, Canard PC donc, décide de a mis en marche son site web et décide aussi de s'ouvrir à Twitch. Donc, il y avait effectivement ce sens. On pourrait parler de, diversification des activités, mais clairement, l'idée, c'était d'attirer un nouveau public parce que le magazine papier, parce qu'il fallait le faire, en fait. On pouvait pas compter exclusivement sur le magazine papier. Donc, c'est une période de transformation qui, forcément, est un peu anxiogène parce que c'est beaucoup de journalistes qui se retrouvent donc à devoir apprendre un nouveau métier, qui est celui d'animer, qui, en plus, vont apparaître à l'écran alors que ça n'a jamais été le cas auparavant. Moi, finalement, j'arrivais un peu au bon moment, dans le sens où personne ne me connaissait. Enfin, je veux dire, j'apparaissais déjà sur Twitch. Donc, quelque part, ça a presque aidé à mon intégration. Mais je pense que, pour beaucoup de journalistes, ça a été... compliqué en fait de se retrouver à faire cette transition, même si elle s'est faite sans problème pour Canard PC, mais c'était particulièrement intimidant au début et il y avait tout à apprendre, et en plus avec le sentiment d'être déjà regardé par des gens parce qu'il y avait les lecteurs, quoi. Et être regardé quand on est susceptible de faire des erreurs, c'est toujours un peu stressant. Donc je ressentais ce côté-là, et puis il y avait quand même aussi cette idée de, je voyais, donc quand j'ai commencé à rencontrer des confrères et des consoeurs dans le milieu, je me suis rendu compte quand même d'un constat, c'est qu'on était quand même assez mal payés, globalement, qu'on soit en poste ou en pige, et que c'était compliqué. Il revenait toujours en fait cette idée de métier passion qu'on devrait faire pour des cacahuètes, et ça c'était déjà bien présent, ouais.
Il y a plusieurs choses dans ce que tu disais. D'abord, est-ce que tu peux expliquer la différence entre le statut de pigiste et le statut de journaliste en plein dans ce milieu ?
Journaliste à temps plein, donc a priori, on travaille pour une seule rédaction. Et quand on est pigiste, on peut travailler pour tout type de rédaction. Ça peut être de manière régulière, mais ça peut aussi être de manière très ponctuelle. C'est un statut, disons, plus précaire. Même beaucoup plus précaire, parce que déjà il n'y a pas les congés payés, les avantages du salariat, mais c'est aussi qu'on se retrouve en fait à courir après plusieurs employeurs, et c'est un statut qui est beaucoup plus compliqué à comprendre, par exemple pour un conseiller Pôle emploi.
Ouais, donc t'es payé quand même en fiche de salaire, mais mini fiche de salaire, donc t'as travaillé 3 jours, tu es payé avec tu as ton assurance chômage, maladie, etc. T'es pas, toi, complètement indépendant, mais par contre, t'es une sorte de micro-temps partiel qui peut aller voir où il veut, indépendant, mais qui est payé en fiche de salaire malgré tout.
Exactement, voilà, et puis qui peut aussi s'arrêter à tout moment, ça c'est ouais. Le gros problème, le gros côté précaire de la vie de pigiste.
Il y a beaucoup de pigistes dans le milieu de la presse jeux vidéo, en pourcentage de...
Vu de nez. J'aurais du mal à l'établir. J'essaye de voir avec les rédactions dont je connais un peu les équipes. Je vois Gamekult, ils avaient quelques pigistes. JV Le Mag en ont aussi, mais ça reste minoritaire, je pense, par rapport aux équipes en interne. En tout cas, pour Canard PC, on a... Moi, donc, j'étais pigiste, ils ont fini par m'embaucher. Et il y a... ça reste mineur.
C'est pas la majorité des gens qui bossent dans les rédactions, quoi.
Non. D'accord. Non, franchement, non.
Ce qui pourrait d'ailleurs... L'une des inquiétudes avec le rachat de Unify par Reworld, c'est justement cet aspect. Il semble que Reworld Media travaille beaucoup avec très peu de journalistes à temps plein et beaucoup de pigistes. Et c'est ce qui... L'un des facteurs qui est un petit peu inquiétant. Il y a d'autres rédactions d'ailleurs qui sont réorganisées un petit peu comme ça, il semble, et c'est forcément plus compliqué à gérer. Oui.
C'est vrai qu'après le cas Science et Vie, on a pu voir ce que ça a donné. Reworld Media a un peu cette réputation de fossoyeur du journalisme, donc forcément le temps est à l'inquiétude. Au moment où sera diffusé ce podcast, on en saura peut-être un peu plus. Mais en tout cas, oui, les circonstances sont quand même très floues pour les équipes de Gamekult. C'est l'impression que ça donne.
Il y a un autre aspect de ce que tu disais que je voudrais explorer un tout petit peu plus. C'est la question de cette transition que Canard PC a dû faire. Parce que en 2018 environ, cette rédaction... C'est vraiment a fait une transition que d'autres ont fait, on va dire, 5 ou même plus de temps avant, en passant du papier au net, et donc en amenant tout ce qui est live et ce genre de choses. Si on va sur le site de Canard PC aujourd'hui, ils ont tout, ils ont les liens vers, ils ont leur Discord, ils ont Instagram, ils ont Facebook, enfin il y a
les podcasts
exactement, il y a YouTube, il y a Twitch, enfin il y a tout. Et tu disais, mais du coup, c'est vraiment apprendre un autre métier. Ça, c'est quelque chose qu'on réalise pas forcément. Quand t'es journaliste, t'écris des trucs et tu prends ton temps pour rendre ton papier. Quand tu fais partie d'une rédaction Internet, aujourd'hui, on te demande de faire 1000 choses différentes qui sont pas forcément les mêmes métiers. Du coup, c'était compliqué de gérer tout ça en même temps. Les gens étaient, tu le disais, pas forcément habitués à faire ce genre de choses.
Honnêtement, je peux te parler de mon cas, mais moi, ça me faisait peur dans le sens où j'adorais écrire. Enfin, vraiment écrire. C'était vraiment ce que j'aime. C'est toujours ce que j'aime le plus dans le métier de journaliste. Mais le fait de m'exprimer à l'oral, je l'avais jamais fait auparavant. Enfin, je veux dire, si, mais pas dans un cadre professionnel en tout cas. Ça paraît très bizarre, mais comme ça, j'avais fait quelques vidéos par-ci par-là à l'époque de Vice, mais. Ouais, c'est quand même très très différent en fait de structurer sa pensée donc pour un texte et ensuite de se retrouver à en parler à l'oral. Moi, j'avais vraiment beaucoup de mal. Je crois que mes premières interventions à l'oral, j'osais à peine parler. Je m'excusais presque d'être là. Et je pense que ça a été le cas pour d'autres. Après, je peux pas présumer de ce que ça a été pour tout le monde, mais oui, comme tu dis, c'est un tout nouveau métier à apprendre. Et on a tous des aisances différentes, quoi. Certains sont meilleurs à l'écrit qu'à l'oral, et d'autres. Par contre, il y a aussi eu des révélations dans ce sens-là. D'autres qui se rendent compte qu'ils sont ultra à l'aise à l'oral. Ouais, on a eu quelques petites découvertes comme ça. Ouais.
Mais du coup, ça nous amène aussi à parler d'un autre élément qui est hyper important dans la presse spécialisée ou dans les médias spécialisés des jeux vidéo aujourd'hui. C'est justement la concurrence de ce tout nouveau corps de métier. Qui est celui des influenceurs, on va dire au sens large, que ça soit YouTube, Twitch ou TikTok aujourd'hui. Et d'ailleurs, si tout va bien, on aura parlé plus précisément de ça avant la diffusion de cet épisode pendant l'été. Mais il y a une concurrence qui est simplement pour les gens qui étaient des lecteurs de magazines il y a quelques années ou décennies. Aujourd'hui, ils ont ce choix. Pour s'informer, un accès à l'information. Alors, information, il faut peut-être mettre des guillemets, mais en soi, au fond,
c'est
de l'information, c'est une forme d'information, par des gens qui ne sont pas forcément des journalistes, qui vont avoir une approche plus ou moins professionnelle de ce qu'ils font. Certains sont juste là pour jouer à des jeux vidéo en direct et s'amuser en faisant ça, qui n'ont pas du tout une ambition journalistique et qui se retrouvent à avoir une influence importante et que du coup, on va forcément aller chercher quand on est développeur ou distributeur pour mettre notre produit devant les yeux de leurs spectateurs. Il y a donc toute cette concurrence qui est sortie de nulle part en 10 ans. C'est forcément compliqué à vivre pour la presse spécialisée. C'est une concurrence au niveau économique et au niveau, c'est lié au niveau de l'audience. Comment ça se passe, les relations avec ce monde ? Entre les journalistes professionnels et puis les influenceurs, de ton point de vue?
Ouais, alors là, ça dépend vraiment. Je pense que c'est vrai qu'on parle d'influenceurs au sens large parce que je pense que tout le monde ne fait pas le même travail, que ce soit sur Twitch ou YouTube. Je vois vraiment des streamers faire du travail de journalisme, vraiment faire un travail de journaliste dans le sens où. Ils, par exemple, vont refuser des opérations spéciales, être transparents, en tout cas sur la manière qu'ils ont eu d'accéder au jeu. Et je pense qu'il y a quand même cette espèce de curiosité, en fait, de voir comment ce qu'on peut faire du journalisme sur ce type de nouveau format. Pour ce qui est des influenceurs au sens vraiment premier degré du terme, vraiment des personnes qui vont effectivement faire plus de la communication et de la publicité que du journalisme. Là, je vais pas dire qu'il y a une défiance, je dirais juste qu'il y a une acceptation du fait qu'on ne fait pas le même métier du tout. Et on constate, mais moi, par exemple, je constate que oui, la perte de pouvoir de la presse est indéniable par rapport aux influenceurs. Mais je peux pas vraiment donner d'idée arrêtée sur mon ressenti là-dessus, parce que je comprends aussi pourquoi c'est dans l'intérêt des éditeurs d'avoir recours à des influenceurs plutôt que des journalistes. Et je comprends aussi, d'un point de vue consommateur, en fait, pourquoi ça peut être intéressant, en fait, de voir le jeu en direct plutôt que lire un papier où on s'imagine le jeu.
Ce qui est, comme tu le disais, un métier différent, ça ne veut pas dire que dans la rédaction, et d'ailleurs toutes les rédactions le font aujourd'hui, il y a aussi des let's play, des trucs équivalents.
On l'a fait aussi.
Ouais. Mais sur le point de, on va peut-être en conclusion parler de cet aspect qui est important, sur l'aspect perte de pouvoir des magazines et des sites spécialisés, Est-ce que tu penses effectivement que... Parce que la manière dont je le vois, moi, c'est que il y a un problème d'audience. Et aujourd'hui, malheureusement, avec la publicité, bah, l'audience est reine et il faut afficher des pages pour faire rentrer de l'argent, avoir des revenus. Et il y a beaucoup de sites, en particulier des sites très exigeants qui font des formules d'abonnement, mais il y a un petit cœur de fans qui va essayer enfin, qui va souscrire à ce genre d'opération, mais ça suffit généralement pas à faire vivre une rédaction dans son ensemble, donc on a forcément besoin de la pub ensuite. Donc ça, je pense que c'est établi, mais est-ce que tu penses que les relations avec les éditeurs se sont vraiment transformées avec la montée des influenceurs? Genre les éditeurs se disent « bon bah, on n'a pas vraiment besoin de vous, est-ce qu'il y a des magazines qui ne vont pas recevoir un jeu en avance pour pouvoir le tester et proposer le test au moment de la sortie ? Est-ce que c'est quelque chose de standard aujourd'hui ? Parce que moi, j'ai l'impression que les développeurs, et tu vas me dire si je me trompe, les développeurs ne se sont pas dit « bon, bah, on ne va plus parler à Gamekult, Gameblog et Canard PC parce qu'il y a aujourd'hui, je ne sais pas quel ponce ou je ne sais pas quel influenceur qui va pouvoir nous faire une vidéo sur notre jeu ». J'ai pas l'impression qu'il y a eu ce pourrissement des relations, mais...
Non, honnêtement, enfin, je le vois pas non plus, dans le sens où, à chaque fois, par exemple, que j'ai voulu tester un jeu, vraiment, c'est arrivé, hein, parfois, qu'on doive l'acheter nous-mêmes, parce que soit l'éditeur répond pas, soit il veut pas nous le donner, j'en sais rien. Je connais pas les raisons exactes. Mais en tout cas, j'ai quand même le sentiment que on est toujours là, perçu peut-être comme complémentaire au travail des streamers, ou eux, leur travail est perçu comme complémentaire par rapport au nôtre, j'en sais rien. Mais je constate quand même une cohabitation, et surtout du côté des éditeurs qui rechignent jamais, enfin, à nous envoyer des tests. Enfin, j'ai jamais eu le sentiment de devoir dire, bah, quand même, on est un magazine. On existe depuis plus de 15 ans.
Vous savez pas qui je suis, mais enfin.
Ouais, voilà, c'est ça. Non, franchement, là-dessus, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec ton constat.
Ouais. Mais, bon, il n'empêche que c'est un truc dont on parle depuis longtemps. La presse spécialisée est en difficulté, ça, c'est certain. Et puis, on a vu même avant les histoires, les difficultés de Canard PC et de Gamekult aujourd'hui avec la revente. Et puis, il y a eu Gameblog qui a eu cette
liquidation judiciaire.
Ouais, rocambolesque, où ils sont toujours là. On ne sait pas très bien qui est là, comment, pourquoi. Enfin, bref. Avant ça, il y a eu des journalistes qui ont quitté des rédactions, des gens qui sont au bout du rouleau. On a vu en particulier chez Gamekult plusieurs qui sont partis, dont d'ailleurs l'exemple le plus notable, c'est celui de Gotoz, qui est devenu influenceur, mais qui fait son... Enfin, influenceur, oui, techniquement, c'est ce qu'il est, et qui fait ça de manière aussi éthique qu'il le faisait à Gamekult, mais qui du coup... analyse chaque matin ou presque, on va dire trois fois par semaine, analyse l'information, fait des comptes rendus avec beaucoup de rigueur, qui a amené son public de Gamekult, parce que comme tu le dis, les gens, c'est des signatures, c'est des gens qu'on connaît dans ce genre de milieu. Et donc, il a ramené son public, il a connu un succès, je pense, qui était assez impressionnant. Et donc, il y a cette sorte de transition. Et toi-même, tu en as été victime, puisque Canard PC a dû réduire la voilure pour des raisons qui sont peut-être un petit peu différentes, des raisons très pratiques, hein, de
oui,
coût du papier. Et de...
C'est ça, exactement. Mais oui, c'est vrai que c'est particulier, ouais.
Mais du coup, la presse spécialisée aujourd'hui est dans une situation qui est très difficile, que tu as ressentie très, très personnellement. Comment tu vois la situation de la presse spécialisée aujourd'hui et comment tu penses que ça peut évoluer ? C'est une question vaste, mais je suis curieux d'avoir l'analyse ou la vision de quelqu'un qui est au milieu du truc.
Alors, aujourd'hui, j'avoue que je trouve la situation un poil déprimante, mais dans le sens où Gamekult, c'est un média que j'adore, Canard PC aussi, JV Le Mag aussi, c'est des médias que j'ai pas envie de voir en difficulté, que j'ai envie de continuer à pouvoir lire. Et à pouvoir soutenir les raisons qui font que la presse va mal. Bon, bah, on l'a dit, c'est aussi lié au prix du papier pour ce qui est le cas de Canard PC. Mais voir.
Ça touche JV aussi d'une certaine manière.
Bah, voilà, ça les touche aussi. Bah oui, forcément, ils ont dû augmenter leur prix également. Et ça, en fait, la presse papier jeux vidéo devient vraiment un objet de luxe. Hein. C'est hallucinant. Hein. Ouais. Et pour le cas de Gamekult, bah ouais, c'est ça, c'était vraiment un des derniers sites, enfin, c'est toujours un des derniers sites, enfin, en tout cas, qui prône l'indépendance, qui n'hésite pas à faire des enquêtes sur les dessous de l'industrie. Et donc moi, effectivement, voir tout ça en difficulté, ça m'attriste énormément. Mais pour finir sur une note plutôt une note d'espoir, je trouve que le cas de Gotos que tu as cité est ultra intéressant parce que effectivement, il applique le métier de journaliste. Il fait vraiment son taf avec la même rigueur que celle qu'il avait à l'époque de Gamekult, mais sur Twitch. Et je trouve que c'est une voie intéressante et j'espère voir ce type d'initiative continuer d'arriver dans le sens où c'est super chouette en fait de voir justement le côté diffusion de jeux en direct sur Twitch mais cohabiter avec des formats plus éditorialisés et je pense que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment voir se développer dans les années à venir. Je serais très curieuse de voir ce que ça peut donner.
C'est compliqué parce qu'effectivement il y a, c'est indéniable, les sites de jeux vidéo qui sont en difficulté et peut-être que c'est lié justement aux frais parce que c'est une des questions qu'on se posait il y a quelques semaines quand on parlait spécifiquement de Unify. Est-ce qu'il y a encore un public suffisant pour faire vivre des sites de jeux vidéo aux États-Unis? Clairement, il y a pas, enfin, c'est pas qu'il y a pas de souci, mais il y a plusieurs en langue anglaise, il y a la place pour un certain nombre de publications. En langue française, on peut légitimement se poser la question, est-ce qu'il y a la place? Parce que la difficulté, oui, elle est due à des décisions des propriétaires des boîtes qui font que on va aller plutôt dans cette direction que dans cette direction, mais au cœur du problème, c'est les revenus et le fait que oui. Bah, y a peu de gens qui vont sur ces sites, qui affichent les pubs, qui payent pour s'abonner. Est-ce qu'il y a la place, quoi? La question est légitime.
Bah, moi, je pense quand même, hein, dans le sens où Gamekult, avant l'annonce de la revente, revendiquait pas loin de plus de 10 000 abonnés premium, ce qui est quand même pas rien.
Autour de 10 000. Ça suffisait pas à vivre, tu vois. Après, parce que il y a toute une rédaction, il y a des bureaux, il y a des comptables, il y a des relations, des gens qui doivent aller chercher des annonceurs, et tout ça c'est lourd. Alors que, bah, justement, pour prendre l'exemple de Gotos, je suis à peu près certain que Gotos a moins de revenus que Gamekult en tant que site, mais il est tout seul. Et je suis sûr qu'il travaille avec des gens qui le payent aussi, mais c'est une voilure moins lourde. Est-ce qu'on peut faire vivre une rédaction comme on les a connues pendant ces deux dernières décennies?
Ça c'est pas sûr. Par contre, je pense qu'on peut continuer à faire vivre des rédactions, mais effectivement c'est compliqué. Enfin, je vois, bah, par exemple pour le cas de Canard PC, la rédaction, je crois que Canard PC a jamais eu autant d'abonnés. Justement, ils ont beaucoup plus d'abonnés web que ça pouvait être le cas avant. Les ventes en kiosque représentent toujours 2/3 du chiffre d'affaires. Enfin, le public est toujours là et on a surtout constaté qu'il se renouvelait en constatant que des personnes nous avaient découvert via Twitch. Mais le fait est qu'ils ont pas du tout les moyens d'encaisser la crise du prix du papier sans procéder à des licenciements. Je pense que j'espère vraiment que la rédaction pourra continuer tant que les prix continueront de monter. Enfin, c'est toujours incertain cette situation. La guerre en Ukraine aussi a joué. Donc, ça fait quand même un tas de facteurs, en fait. Pour moi, ça relève pas uniquement de la capacité des rédactions à avoir un modèle économique viable. Ça tient au contexte du monde dans lequel on vit, qui, là, en ce moment, est plein d'imprévisibilité, quoi.
Ouais. Du coup, peut-être que c'est une situation de crise dont la presse pourrait traverser et peut-être même encore se transformer. Je pense que ce qui est bien établi maintenant, c'est que l'accès à l'information, c'est diversifié. Il y a plein de gens qui font un travail vraiment bon sur YouTube, sur Twitch, on l'a dit. Peut-être des journalistes qui vont aussi à l'avenir se reconvertir. Mais toi, tu crois qu'il est possible, qu'il y a la place pour, je ne sais pas, 1, 2, 3 sites spécialisés, peut-être même des magazines aussi, si on réussit à arriver de l'autre côté de la crise? Bon, ensuite, tu n'as pas les clés financières de toute l'industrie, mais c'est ton impression, quoi.
Bah, c'est mon impression, mais c'est peut-être surtout mon espoir. Peut-être que je mixe mes espoirs et mon impression, mais en tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a toujours des lecteurs qui sont attachés au papier et même des lecteurs plutôt jeunes. Enfin, quand j'ai appris que certains lecteurs avaient la vingtaine et nous avaient découvert via Twitch et achetaient quand même les magazines derrière, je sens qu'il y a quand même une demande en fait d'avoir des formats un peu plus posés, peut-être à rebours de l'actualité par moment, avec des sujets à côté. Le fait est que à côté, il y a aussi la presse généraliste qui s'est mise à de plus en plus enquêter sur le milieu du jeu vidéo, se rendant compte de l'importance de l'industrie. Donc c'est à voir aussi comment les médias généralistes vont continuer à s'emparer de ces sujets. Et s'il restera toujours une place. Moi, j'ai bon espoir que oui, une petite place.
Ouais.
Mais voilà, c'est peut-être juste mes espoirs et mon optimisme qui parlent.
C'est un aspect qu'on n'a pas évoqué, mais effectivement, la presse généraliste parle beaucoup plus de ces sujets. Et du coup, les médias spécialisés sont un petit peu squeezés entre les influenceurs et la presse généraliste. C'est sûr, un test d'un gros jeu, il va sortir. Il va y avoir au Monde, au Figaro, des gens formidables qui vont faire ce genre de choses. Qui ont d'ailleurs parfois été débauchés de la presse spécialisée, forcément.
Ah, c'est ça. Oui, ce que j'allais dire, c'est qu'au début, je pense que les lecteurs auraient peut-être eu plus tendance à se méfier d'un test qui sort dans le Figaro, le Monde ou n'importe quel média généraliste. Mais le fait est que la plupart des personnes qui occupent ces postes et qui écrivent sur le jeu vidéo viennent de la presse spécialisée, ont grandi en jouant aux jeux vidéo et sont tout aussi compétents que des personnes de la presse spécialisée quand il s'agit de parler de jeux vidéo. C'est juste, par exemple, sur les tournures de phrases que ça va un peu changer. Il y aura moins de jargon lié aux jeux vidéo, on va dire. Mais ouais, c'est ça.
Moi, je suis comme toi, je veux espérer qu'il y aura toujours la place pour une, deux rédactions de passionnés qui vont vouloir faire ce métier. Et qui réussiront, imaginons même que les choses se passent mal du côté de Gamekult, Gameblog et d'autres, j'imagine qu'il y aura toujours un groupe de journalistes qui voudront faire quelque chose et qui pourront remonter quelque chose, peut-être ailleurs.
Oui, bah, par exemple, on parlait de Science et Vie, enfin Reworld, il y a le cas Science et Vie, il y a eu Epsilon derrière, et j'ai envie d'imaginer ce genre de perspective, admettons... que ça se passe mal pour Gamekult, hein. Mais j'aimerais vraiment en fait voir un média indépendant surgir en fait de cette crise.
Ouais. Et on pourrait espérer, il y a eu des aventures comme ça aux États-Unis. J'évoquais il y a quelque temps Jeff Gertzman et Giant Bomb par exemple. Mais c'est marrant parce que du coup, au fur et à mesure, il faut faire rentrer de l'argent, donc il y a des relations publicitaires et ça grossit, et puis on va peut-être revendre la boîte, et puis du coup, Gertzman est parti de Giant Bomb. Mais c'est des cycles comme ça, mais j'espère qu'il y aura la place. Il y a un truc qu'on n'a pas évoqué, c'est le burn-out des journalistes de jeux vidéo qui sont usés jusqu'à la toile, jusqu'à je sais pas quoi. Et on en a vu beaucoup partir parce qu'ils n'en pouvaient plus. C'est un métier qui est compliqué, qui est fatigant. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as constaté depuis que tu y navigues ou tu as eu de la chance et tu as plutôt été épargné?
Disons que j'ai pas été en burn-out, mais avant de rejoindre Canard PC à temps plein, quand j'étais pigiste, je ressentais beaucoup plus cette fatigue en fait. Mmh. Cette fatigue de passer des heures sur un jeu pour en tirer juste une page. Sans avoir effectivement la sécurité de se dire, enfin, je pense que c'est beaucoup plus facile de travailler sur le jeu vidéo quand on le fait à temps plein, forcément, parce que moi j'avais tendance à me dire, une minute que je passe en plus sur ce jeu sans pouvoir trouver quoi que ce soit de nouveau à y écrire, c'était une pression quelque part, c'était perçu comme une perte de temps, enfin moi je le percevais comme une perte de temps, et ça change complètement, ça travestit un peu ton rapport au jeu vidéo. En tant que salarié, c'était beaucoup plus tranquille dans le sens où je savais à peu près le, mais c'est aussi parce que c'est un magazine papier. Je savais le nombre de pages qui m'étaient allouées, c'était vraiment suffisamment confortable pour que j'ai pas du tout ce sentiment de m'épuiser, vraiment, même pas du tout. J'avais des conditions de travail assez idéales, mais je comprends en tout cas. Enfin, je vois d'où peut venir le burn-out dans le sens où certains médias, c'est le cas de Gamekult, ont une volonté beaucoup plus, une couverture beaucoup plus exhaustive. Par exemple, des événements qui vont avoir lieu, tout ce qui est conférences jeux vidéo en plus à couvrir. C'est à partir du moment où on est un minimum exhaustif, c'est forcément une source d'épuisement, je pense, pour les journalistes. Il faut un travail de curation, un travail d'éditorialisation, forcément.
Ok. Écoute, je pense qu'on arrive. Je t'avais dit qu'on ferait environ une heure. On a un peu dépassé.
C'est vrai. Je n'ai pas du tout vu le temps passer. Désolé.
Écoute, si t'as pas vu le temps passer, moi, je m'inquiète de faire trop long. Peut-être que les auditeurs verront pas le temps passer non plus. C'est plutôt bon signe. Merci Julie de nous avoir parlé de tout ça, de ta vie pendant et de la presse pendant un petit peu.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Patrick, vraiment je suis très contente de commencer cette collaboration avec toi et vraiment j'espère en tout cas que ça n'a pas été trop ennuyeux pour les auditeurs et qu'il y aura au moins quelques éléments sur l'état de la presse actuelle qui les intéresseront.
Je pense que ils sont, pour ceux qui sont sur la plage, tu vois, ils ont passé une heure et demie tranquille en notre compagnie. Je suis sûr que ça les a distraits et intéressés. J'espère en tout cas, dites-nous ce que vous en avez pensé. Et puis on revient à des épisodes plus classiques à partir de... Alors a priori, ça sera la semaine prochaine, hein, on est normalement en août. Et bah, on verra ce qui sera passé à ce moment. Et on sera avec Julie, notamment. Et
mais oui, tout à fait.
Ça sera le début d'une collaboration officielle. Alors, on verra combien de temps on pourra te garder jusqu'à ce que peut-être un grand groupe de presse vienne te dérober à Erwan et moi. Et on verra combien de temps ça dure. Mais d'ici là, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet, du coup, pour que les auditeurs puissent aller te suivre un peu?
Ouais, bien sûr. Bah, vous pouvez me retrouver sur Twitter. Mon pseudo étant ICTH. C'est terrible. Tout le monde galère à me retrouver, mais bref, voilà, sous mon nom, donc Julie Le Baron. Et j'ai une chaîne Twitch désormais, où je vais, je pense, faire des let's play.
Tout de suite.
Et c'est sous le pseudo que j'avais à l'époque de Canard PC, à savoir Hélène Ripley, tout collé. Je suis même pas sûre qu'on puisse me retrouver sur Twitch directement parce que j'ai jamais. Ah bah on est en août, donc ce sera peut-être plus facile, j'aurai diffusé. Okay. Ouais.
Écoute, moi j'ai Hélène Ripley, twitch.tv/HélèneRipley, qui
ah bah c'est
existe.
Ça, c'est ça, exactement.
Journaliste parfait. Anciennement chez Canard PC. Donc,
tout
suivre, voilà, ça y est, je te suis. Hélène
merci
Ripley,
Patrick.
Ripley comme Ripley, hein, vous connaissez de Canard PC, voilà. merci Julie. Pour ma part, c'est Note Patrick. Vous connaissez hein, Note Patrick partout, sur les réseaux sociaux, sur Twitch surtout, et bien sûr pour soutenir l'émission, c'est patreon.com/rdvjeux. Si vous appréciez notre travail, vous pouvez soutenir sur la plateforme Patreon, et vous avez plein de bonus, plein de trucs sympas. Bref, vous connaissez patreon.com/rdvjeux. Si vous n'y avez pas encore pensé, c'est le moment. Pendant que vous êtes en vacances et que vous avez du temps, c'est peut-être le moment d'aller soutenir. Le lien est également dans les notes de l'émission. On vous remercie tous de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous bah, du coup dans une semaine.
Bah, oui, à dans une semaine.
À dans une semaine. Ciao à tous.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.